Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Elisabeth Borne, ce matin sur RTL, un peu avant 8h, annonce le détail de l'aide carburant ciblée pour les travailleurs les moins riches en janvier 2023. On va en dire un mot. C'est la première fois qu'on va vraiment vers une aide ciblée. Rodomontade entre Emmanuel Macron et Enedis. Lorsqu'Enedis met en garde contre le risque de coupure de courant, à une heure de grande écoute sur une chaîne d'info, BFM TV en l'occurrence, en disant oh, si vous avez une respiration artificielle, on ne sait jamais. Et puis Emmanuel Macron considère que, eh bien, Enedis carbure au pessimisme avec le prisme du pire et que ça n'est pas son boulot. Son boulot, c'est de fournir de l'énergie. Le 15 décembre, la Banque Centrale Européenne décidera la direction de sa politique monétaire. Contrairement à la Fed, elle ne va pas modérer ses hausses de taux. 50 points de base, c'est sûr. 75, peut-être. Puis on reviendra, vous savez, sur ce débat qu'on a eu avec Jezabel Coupé-Soubéran. Et si la Banque Centrale allait encore plus loin dans l'assistance aux États, dans l'assistance aux personnes, dans le cofinancement, voire le financement direct de certains choix de politique budgétaire. Vous le savez, la courbe des taux s'est inversée. On redoute la récession. Standard & Poor's n'exclut plus désormais d'abaisser la note de la dette française. On évoquera aussi des informations qui nous viennent des États-Unis. Vous savez, quand on voit des fonds d'investissement qui décident de geler toutes les opérations, ce sont des choses qui nous rappellent de mauvais souvenirs et qui sont généralement annonciatrices de lendemain pas forcément très simple. Et puis enfin, c'est quand même un chiffre impressionnant. TSMC, le monstre absolu des semi-conducteurs, annonce qu'il va construire deux usines en Arizona pour 40 milliards de dollars. Et si SMC quittait Taïwan ? Sacré sujet. Pour gagner, évidemment, les États-Unis. Bonjour Sylvie Matera.
Bonjour.
Économiste, senior advisor du cabinet de conseil d'audit Mazar. Guillaume Dard, bonjour.
Bonjour.
Président de Montpensier Finance, société de gestion, de conseil en investissement et vice-président de l'AFG, Association française de la gestion financière. Bonjour Frédéric Farah.
Bonjour.
Bienvenue, économiste, enseignant-chercheur affilié au laboratoire phare de l'Université Paris-Sorbonne. Philosophie, histoire et analyse des représentations économiques. On va aller vite là-dessus. Fin de la ristourne pour tous pour les carburants au mois de décembre. Et à compter du mois de janvier, 10 millions de travailleurs modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler pourront prétendre à une aide versée en une fois de 100 euros. Un couple éligible avec deux voitures pourra prétendre à 200 euros. Il faudra se rendre sur le site du gouvernement, le site de Bercy que vous connaissez tous, renseigner son numéro fiscal, renseigner sa plaque d'immatriculation et indiquer sur l'honneur que l'on a bien besoin de sa voiture pour aller travailler. Et à ce moment-là, les 100 euros seront crédités sur le compte en banque des bénéficiaires. Il n'est plus question des gros rouleurs. Il ne faudra pas justifier d'un nombre de kilomètres parcourus. Petite réaction, Guillaume Dard, ça y est, l'aide est ciblée, 1 milliard en 2023. Aujourd'hui, la ristourne, c'est presque 1 milliard par mois.
Oui, ce débat a lieu depuis plusieurs mois. On demandait à ce qu'effectivement, il n'y ait pas un bouclier tarifaire pour tout le monde, one size fits all. On demandait à ce qu'il y ait un ciblage. Donc ça, c'est un ciblage. Alors, immédiatement, j'imagine que dès qu'on aura analysé davantage ce ciblage, on lui trouvera plein de défauts, des effets de bord, des effets d'éviction de seuil, des contraintes. Je ne sais pas ce qui se passe quand covoiture. On est en France, donc vous pouvez imaginer le nombre de critiques qu'on va trouver dans les 24 heures à venir. Dans l'idée générale, c'est une bonne chose, c'est ciblé. Et deuxièmement, en janvier, on a traditionnellement une série de hausses des taux, notamment dans le transport, etc. Et donc, c'est un petit baume adoucissant pour une partie de la population. On comprend bien les contraintes du gouvernement face au mécontentement latent. On va évoquer d'autres sujets de mécontentement. Il y a autant de sujets de mécontentement que de sujets. C'était qui ?
Que deux minutes dans l'émission.
Non, mais en France, il y a autant de... C'était Cire, c'est Turgot, non ?
Allez-y, je ne vois plus, mais...
Voilà, bon. Je pense qu'en France, il y a autant de sujets de mécontentement que de sujets.
D'accord.
Le nombre de Français, si vous voulez.
Oui.
Donc, ça en fera un, mais c'est une bonne chose. Et si on a le coup de chance que la baisse du cours du pétrole se poursuive et que la hausse de l'euro se poursuive,
ah oui,
vous avez remarqué quand même que on était à 95 contre dollar et qu'on est à 1,05, ça fait 10%. Le pétrole est, toutes choses égales par ailleurs, 10% moins cher aujourd'hui qu'il y a un mois.
L'effet euro est colossal.
Et comme le pétrole lui-même, il a reperdu 15 à 20%, on a donc une baisse par rapport au pic qu'on a connu cet automne de 25% potentiellement. Alors, cours du pétrole, ça varie tous les jours, donc on ne va pas faire de pronostics.
Oui, mais quand même,
mais
on est passé sous les 80 dollars.
On peut avoir un double effet. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'on avait dit qu'on allait enlever la réduction à la pompe, ça, il va y avoir des hurlements. On n'a pas spécialement.
Ah ben, super agenda pour Bercy.
Super agenda.
Ils ont eu beaucoup de chance.
Et il vaut better lucky than smart. Il vaut mieux être chanceux qu'intelligent, mais ils ont été intelligents.
Il faut reconnaître que mi-novembre, quand on passe la ristourne de 30 centimes à 10 centimes, c'est le moment où l'euro repart à la hausse face au dollar. C'est le moment où le pétrole se met à baisser. Deux effets qui ont bien atténué le côté douloureux de cette ristourne. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non. Bon, j'avance. Attendez, j'ai reçu une réaction que je trouve assez drôle. François qui me dit RTE, réseau de terreur électrique. C'est bon, c'est assez bon. Il faut reconnaître que c'est assez bon. Alors, justement, Emmanuel Macron considère que Enedis, en fait, entretient la peur, jette de l'huile sur le feu. Le boulot d'Enedis, c'est de fournir de l'électricité, de l'énergie. C'est d'anticiper, bien sûr. Mais là, sur un plateau de télé à grande écoute, annoncer que tout peut arriver, et c'était presque Armageddon, ça a considérablement provoqué le courroux du président de la République, qui considère que voilà, chacun son boulot. Et lui, il dit, mon boulot, moi, c'est d'anticiper. À côté de ça, Covid nous a montré que quelquefois, il y avait un petit problème de cécité, voire de déni, au plus haut niveau de l'action gouvernementale. Une réaction par rapport à ça, Sylvie Matera. On se demande qui a raison. Bon, moi, j'avais un avis que j'ai explosé avec... J'allais dire exploser. Oui. Exposer à leur closier à 7h10, on n'était pas du même avis, mais je vous écoute.
Non, bah, je trouve que le président a raison. C'est quand même... Non, c'était un peu étonnant, je veux dire, que la remarque était un peu déplacée, on peut le dire. Et puis en plus, on ne sait pas ce qui va arriver, ça va dépendre aussi de la météo, c'est très difficile de dire ce genre de choses, et effectivement... Tout ce qui est excessif, c'est quand même pas tellement utile dans le débat actuel, je trouve.
Je suis bel votre avis. Alors, je rappelle, le responsable d'Enedis dit sur BFM TV, voilà, il y aura des délestages, y compris une personne qui est sous respiration artificielle à la maison pourra risquer un délestage. Vous imaginez l'effet de ce genre d'annonce.
C'est pas comme... très raisonnable de dire ça à la télé, quand même.
Voilà.
Le président...
Et Frédéric, quand même.
Bien sûr, Frédéric.
Mais... Frédéric Farah, si vous...
Oui, je dirais deux choses. En fait, je crois que le gouvernement, et je comprends l'agacement, parce qu'effectivement, il y a, à mon avis, la jurisprudence Covid derrière. C'est-à-dire
absolument.
Covid derrière. Parce que, souvenez-vous, et je pense que ça doit susciter chez le président de la République une angoisse, souvenez-vous quand le président de la République avait dit, mais il faut aller au théâtre, il faut faire comme si de rien n'était, etc. et tout, et puis tout d'un coup, est arrivé, je me souviens plus la phrase où il sortait, où il fallait dire, bon, il fallait continuer à vivre normalement, et puis après, très vite, on s'est emballé, on a dit, il fallait confiner, ça n'allait plus, etc. Et donc, je pense que c'est dans les têtes, et qu'on a peur d'être pris en défaut, et qu'on sait très bien que dans ce type de situation, la communication compte autant que le délestage.
C'est vrai. Oui. Non, mais d'ailleurs, dans tous les phénomènes autoréalisateurs, les mots comptent.
Les mots comptent énormément.
Regardez, on parle des banques centrales, elles espèrent bien que les mots vont compter plus que les actes. Frédéric.
Juste un petit mot. Et puis après, aujourd'hui, je pense que de manière générale, on observe, et ça part récemment, à côté des politiques, comme on a accordé de plus en plus de place dans la décision politique, dans les orientations, on va dire à des organes techniques. Donc il n'est pas étonnant que d'ici de là, ceux qui sont des acteurs, c'est la logique de la gouvernance, interviennent dans tout ce qui est électricité et fourniture, se sentent obligés pas simplement de faire leur métier, mais aussi de parler. C'est-à-dire de dire des choses. Alors pour le meilleur et parfois pour le pire, parce que parfois les gens qui vont dire des trucs vont dire l'histoire du respirateur et tout. Enfin, alors qu'effectivement nous vivons dans une société, et ça je crois que c'est le gros problème depuis des années, où on arrête de penser la société comme des projets, on pense de plus en plus la société comme une somme de risques.
C'est très vrai.
Sachant que les délestages qui durent 2 heures maximum sont anticipés, programmés, planifiés, territorialisés. Mais c'est très très vrai.
Ce serait mieux de penser à la société plus en termes de projets que de risques qui risquent de nous casser la tête.
Et services. Si on peut exprimer un souhait, est-ce qu'on pourrait éviter de se réveiller tous les matins? Pendant 2 ans, on a eu tous les matins des médecins qui nous expliquaient à quel point la situation est dramatique. Si on pouvait éviter de se réveiller tous les matins avec des gens qui viennent nous expliquer qu'on ne va pas avoir d'eau chaude, qu'on ne va pas avoir d'électricité, ça serait quand même pas trop.
Je suis d'accord, on a l'impression que c'est l'apocalypse à peu près tous les matins.
Mais c'est ça.
Ouais. Voilà. Alors le président. Le président, il est dans son rôle. On est un pays où on écoute la parole présidentielle, quelle qu'elle soit. Il est là pour être le chef, et s'il n'était pas intervenu, on aurait dit des taux d'abonnés absents, encore une fois, dans une crise. Non, et il a été assez ferme. C'est son rôle, pour les raisons que Frédéric vient de développer, c'est-à-dire que l'ensemble de ces agences, de ces institutions qui sont obligées de communiquer et d'être prudentes parce qu'elles ont peur que d'être ensuite saisi par les juges. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, là, il y a l'agence du médicament là, qui est accusée de quelque chose.
Que j'ai si, pas relevé.
Si ces agences sont sous contrainte judiciaire permanente, donc du coup, elles font leur job, elles se couvrent dans le principe de précaution. Donc le chef, Emmanuel Macron, il dit « Attendez, la France, c'est quand même pas la fin du monde. » Parce que tout ça, c'est dans une séquence. On a le problème de l'éducation qui part dans un certain nombre de cas à volo. On a le système de santé dont on nous explique qu'il n'est pas capable de tenir dès qu'il y a eu quelque chose d'un peu plus grave. Et si en plus l'énergie ne marche pas, sans parler de la dégradation de la note française dans le S&P, si vous voulez, quand même, pour le président de la République, ça montre qu'il est à la tête d'un pays faible. Donc qu'il essaye d'être un peu énergique. Et c'est son rôle, parce que le patron, quel qu'il soit, dans n'importe quelle communauté humaine, c'est dire « Allez les gars, on fait un effort et on y arrive hein. ». C'est pas ce que dit le capitaine de l'équipe de France de football, mais s'il dit pas « Oh là là, ils sont très forts, ils vont nous mettre des buts », non, il dit « On va gagner ». Donc, il est dans son rôle de leader. Ceci étant dit, il y a toujours une limite au rôle de leader. Il y a 100 ans, pendant la guerre de 14, le président Poincaré fait le tour va près des tranchées, notamment à Toul, et puis au loin, on entend énormément de bombardements sur Nancy. Et alors, il dit aux généraux, mais je ne comprends pas, j'avais demandé qu'il n'y ait pas de bombardement. Enfin bon, c'est les Allemands qui bombardaient. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, Emmanuel Macron est dans son rôle, il prend un risque. Effectivement, il prend un risque, mais je trouve que c'est plutôt une attitude courageuse.
Sylvie Matera, pour terminer sur ce sujet.
Moi, j'avoue, j'admire le talent de Guillaume pour mettre tout en perspective. En fait, c'est une phrase complètement inappropriée, et puis il a juste dit bah, c'est une bêtise. Moi, ça me semble très bien.
Pour l'Enedis. Oui, enfin, ouais. Il était plus loin. Le ton était franchi. Mais... Je ne sais pas si la colère était feinte, mais il était dans son rôle de leader. On attend quand même une parole de leader.
Mais c'est vrai que, comme le dit Frédéric, fondamentalement, sur plein de sujets, on avance et on gouverne par la peur, par l'inquiétude. Et alors la communication à outrance, il suffit que les chaînes d'infos pendant 48 heures disent qu'on va manquer de PQ et on manque de PQ. Vous avez vu ce qui s'est... Non mais excusez-moi, ce qui s'est passé au début de Covid, c'était lunaire. Il n'y avait plus de papier toilette dans les rayons. Enfin bon. Écoutez, voilà. Faites vos jeux. Le 15 décembre, alors nous on sait que la BCE va monter ses taux. La Fed, elle va faire un petit peu, pas forcément une pause, mais modérer les hausses. Allez, 50 ou 75 points de base, Frédéric.
Ouf. Je vais la faire à la Philippe Lane dans son interview qu'on retrouve,
très, très bien.
Qui était excellente sur le site de la BCE.
Qui était très très bien.
Et alors donc, Philippe Lane, c'est l'économiste de la BCE.
Voilà. Alors Philippe Lane, quand on lui dit alors 50 ou 75, il dit que bon, il faudra voir la situation. Il avance à pas très très prudent. Alors moi, je dirais plutôt 75, mais je vais faire comme Philippe Lane. On verra bien, je veux dire, parce que effectivement, il explique que par rapport aux données qu'il va avoir, la progression de l'inflation. Il faut voir, cette interview, c'est un monument de prudence. Hein. Je ne sais pas ce qu'on a pensé, mais vraiment, il y va, il a tellement peur qu'on les prenne en défaut.
Je me mets un peu à sa place, Frédéric, en ce moment.
Oui.
Donc, honnêtement, voilà. S'il y a un mot de trop, même si vous n'êtes pas le président, mais que l'économiste en chef...
Oui.
Donc 75 points de base, selon vous, c'est possible.
75.
Ouais, 75. Et Sylvie
Pour le débat, je vais dire 50.
Oui.
Mais je pense qu'ils sont... je pense que les membres du Conseil des gouverneurs sont bien embêtés. Et que ça va être une réunion importante. Et je pense une décision très discutée. Et parce que la Fed a dit qu'elle allait... En fait, je pense que la Fed... D'ailleurs, ça fait plusieurs mois que je le dis à ce micro.
Relevez-le un peu le micro, là. Il est, voilà.
Qu'elle passera de 75 à 50, qu'elle va augmenter de 50. Jérôme Powell l'a quasiment dit. Mais elle va... Donc, c'est diminuer le rythme de hausse, mais continuer à augmenter. La BCE, elle, dans une situation... Alors, elle se dit, si je fais 50, on va dire que je fais comme la Fed, alors que j'ai été un peu à la remorque, finalement, de la Fed, puisque la BCE a réagi tardivement. Si elle fait 75, il y a quand même des pays en Europe où l'inflation est très élevée et ça risque de provoquer des récessions, des signes de récession plus forts. Donc moi je pense que c'est pas seulement le niveau de la hausse qu'il faudra regarder, mais aussi le discours. Donc à mon avis, ils vont s'accorder soit le trade-off va être entre soit 50 et un discours très dur en disant on met 50 mais on a bien conscience que on n'a pas encore atteint le pic d'inflation mais qu'on s'en rapproche et on veut accompagner le mouvement sans casser.
Elle parle pas du pic là, elle dit ça continue.
Oui, c'est important de savoir quand sera le pic d'inflation parce qu'après on peut commencer à ralentir la hausse, ça ne veut pas dire baisser, c'est ralentir le rythme de hausse. Donc soit elle fait 50 avec un discours très très ferme, très très ferme en disant nous tiendrons dans notre combat contre l'inflation, on va continuer pendant une période jusqu'à ce qu'on arrive à des zones qui correspondent à nos mesures, qu'elles continuent à augmenter même si le rythme est différent, soit elles passent à 75 mais avec un discours plus qui soft. Sera à mon avis très soft.
D'accord. Ouais.
Je pense qu'il faut combiner les deux.
Guillaume Dard, votre
bon, premièrement, et la BCE est en retard. La BCE,
c'est ce que me dit John à l'instant.
La BCE est en retard depuis le début. Elle est d'ailleurs en retard à peu près depuis 14 ans, à chaque crise, c'est-à-dire qu'elle est décalée.
La situation économique de l'Europe est aussi décalée.
Pourquoi est-ce qu'elle est en retard ? Peut-être à cause d'elle-même. Et deuxièmement, parce qu'il est beaucoup plus difficile de gérer la Banque Centrale Européenne que la Fed. La Fed, même s'il y a des États en théorie, c'est quand même un pays, les États-Unis, alors que la BCE, elle travaille pour un ensemble de nations qui ont des situations différentes. Donc c'est toujours beaucoup plus difficile.
Oui, d'accord.
Troisièmement, l'inflation peut-être se réduit légèrement. Mon collègue Wilfried Galland dit que lui, en Europe, il pense qu'on a le pic inflation, il est passé.
Donc,
personne
un peu plus
ne
de 10,
sait.
Ce serait le pic.
Quatrièmement, Christine Lagarde, elle a fait un peu comme Philippe Lane. Hein, à sa dernière conférence, elle a fini en disant « Je suis normande, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Hein. »
C'est Philippe Lane.
Voilà. Voilà, donc c'est une Normande, un Irlandais, donc il y a de l'hésitation. Le consensus, il est quand même... vous savez, les marchés mesurent par la courbe des taux d'intérêt à court terme quelle va être la hausse des taux. Elle est à 54, 55. Ce qui fait que,
c'est
effectivement, entre ce que vous venez de dire, il y a un petit doute, c'est-à-dire que ça n'est pas sûr. Mais ça, c'est le calcul, mais le sentiment du marché, c'est 50. C'est-à-dire que si c'est 75, ça va être quand même un coup de tonnerre, parce que quand on fixe les taux d'intérêt, il y a une étude de la Fed de New York, et je finis par là, qui est très intéressante, qui dit il y a le taux R-Star, qui est le taux auquel il faut porter justement ces taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, et il y a le taux R-Double Star, qui est le taux si on l'atteint, le système financier entre en turbulence. Alors, on n'y est pas, que ça soit 0 ou 50 ou 75. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, aux États-Unis, c'est pour ça qu'on dit que ça n'ira pas au-dessus de 5, c'est qu'au-dessus de 5, on ne sait pas ce qui se passe pour le système financier, dans ce monde incroyablement endetté dans lequel on vit.
Et j'ai cru comprendre qu'en Europe, on était entre 3 et 3,5, ce moment.
Non,
3
et 3,5, c'est le... Oui, probablement, bon. Mais enfin, si c'est 3, 3,5, on voit la fragilité du système financier européen.
La BCE est en retard, vous êtes d'accord avec l'ISA?
Oui, elle a réagi.
Tout le monde est d'accord avec
oui,
ça.
Oui, elle a réagi beaucoup plus tardivement, mais je suis tout à fait d'accord avec Guillaume, là, sa situation est beaucoup plus complexe. Hein. 19 pays, des économies différentes, des rythmes d'inflation différentes, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je pense que cette réunion, la semaine prochaine, va être vraiment, vraiment intéressante. Il faudra regarder les minutes quand ils les publieront. Mais...
Je veux qu'on fasse à Frédéric pour regarder les minutes.
Non, et ça va être... Mais je pense que le taux, ça ne sera pas seulement, la chose à regarder. Il faudra regarder le discours.
Oui, et sur le bilan, il peut se passer quelque chose. Ça aussi, c'est un moment clé.
Mais ça a commencé, le bilan?
Ça a commencé.
De combien ça a commencé?
Pour l'instant, attendez, le bilan, les obligations sont actuellement renouvelées. Non. Elles sont...
Le bilan à l'actif de la Banque Centrale, il y a deux choses. Il y a effectivement les obligations d'État achetées et il y a les refinancements des banques.
Oui.
Ça s'appelle le TLTRO. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours? Les banques ont remboursé 300 milliards.
Ah, mais sur le TLTRO, oui.
Non, mais c'est le bilan.
Oui.
Donc, c'est du QT, c'est la liquidité injectée dans le système global, que ce soit les États ou le système bancaire.
Mais ils avaient annoncé qu'ils allaient revenir sur
le... QT a commencé. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis, 15 ans que le bilan de la Banque Centrale Européenne baisse significativement. C'est 300 milliards... C'est le bilan, il doit être à 7 000. Qu'est-ce que Frédéric, vous diriez 7 000, 8 000?
Oui, 7 000, oui.
Bon, 300 milliards, c'est quand même de l'argent. Bon. Hein,
On marque une pause. Vous réagirez dans un instant. Donc le QT, c'est l'inverse du QE. Hein, c'est quand on fait le contraire, justement.
Et puis alors, on serre le robinet.
Voilà, je vous ferai réagir aussi à cette discussion un peu lunaire, quand même, qu'on a eu avec Jezabel Coupé-Soubéran, hein, cette universitaire tout à fait compétente sur ces histoires de finances et de politique monétaire. Je vous ferai réagir à ça, Frédéric, parce que même Jean-Marc Daniel n'était pas totalement opposé à cette idée un peu surprenante. Donc on en dira un mot. Après, on évoquera quand même le risque de récession. Quand la courbe des taux s'inverse, vous le savez, c'est jamais très bon signe. Puis quand même une dégradation de notes de la France. Je crois qu'on est double A au mieux partout aujourd'hui.
On est double A, oui.
Ouais, au mieux. Bon, enfin, il n'y a plus beaucoup de triple A. La Finlande, peut-être. Bon, On marque une pause. On se retrouve dans un instant. Ça nous laisse le temps de vérifier les pays triple A. A tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Sylvie Matera, économiste, senior advisor du cabinet de conseil d'audit et d'audit Mazars. Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG. Frédéric Farah, économiste, enseignant, chercheur affilié au laboratoire Phare de l'Université Paris-Sorbonne. Phare pour philosophie, histoire et analyse des présentations économiques. On va dire un mot juste des triple A avant d'évoquer ce débat qu'on a eu la semaine dernière. Alors, leçon dans toutes ou pas toutes les agences, mais en tout cas ont encore un triple A, l'Allemagne, les États-Unis, l'Australie a encore un triple A, Canada, Suisse,
Pays-Bas,
Danemark, et effectivement, oui, le Luxembourg aussi est dans les trois principales agences. On a les Pays-Bas dans les trois agences, la Norvège aussi, Nouvelle-Zélande, et qu'est-ce que je trouve, Suède, Singapour. Voilà. Mmh. En gros, voilà. Et Suède, ils sont dans les trois agences, Singapour aussi. Et vous, ça vous inspire une réaction ?
Oui, parce que en fait, on a continué de discuter pendant la pause.
Ça nous arrive souvent, ça.
Et effectivement, les pays qui sont encore triplés, c'est des pays où les gouvernements de banques centrales sont assez en faveur d'une politique monétaire restrictive.
Oui.
Donc, je pense que ça va jouer dans le débat de la banque centrale. Et effectivement, ce qu'on disait, c'est que 75 points de base d'augmentation, ça pourrait aussi avoir un objectif de taux de change, parce que ça serait favorable à une augmentation de l'euro.
Oui.
Et compte tenu que l'inflation est importée, c'est pas idiot de penser à ça. C'est pas mal de penser à ça aussi.
Ah,
à un moment, Draghi
est
intervenu justement pour, alors en disant bien sûr que non, je ne pense pas au taux de change, c'est pas mon rôle. Néanmoins, il était quand même intervenu une fois pour des impératifs de taux de change. Et ça pourra avoir un impact. Cela étant, si ça passe à 75, je pense que les marchés vont être assez perturbés. Parce qu'ils anticiperont une récession. Et ils seront vraiment... Alors, maintenant, les marchés... Enfin, tout le monde réagit tellement au discours que je pense que... C'est pour ça que je pense que le message sera important. Les marchés peuvent... A priori, on penserait que les marchés seraient très perturbés par une augmentation de 75, mais ils peuvent aussi se dire, c'est le signe qu'on est proche du pic, puisqu'on pousse vers une récession. Si on va avoir une récession, on va avoir une pression à la baisse sur la demande. Donc, ce qui veut dire qu'après, ça ira mieux. Mmh. Et donc, ils peuvent aussi réagir positivement. C'est très compliqué de comprendre les évolutions financières compte tenu de l'impact des messages.
C'est très compliqué.
Guillaume et Frédéric, et après j'avance.
C'est compliqué, mais la Banque Centrale, à mon avis, va jouer la carte de la prudence. Enfin, sauf si les Allemands sont en train de pousser à l'arrière très fortement. Ce qu'on sait, c'est que les Autrichiens sont assez... Faucon traditionnellement, il y a toujours dans ce conseil de la BCE la fracture entre les pays frugaux et sérieux qui n'ont pas forcément. Enfin, les Suisses ne sont pas. Les Suisses ont toujours eu des taux d'intérêt très bas, mais ils n'ont pas d'inflation, donc c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir.
Peut-être on peut dire comment va être prise la décision. C'est le conseil des gouverneurs où il y a les gouverneurs de tous les pays membres de la zone euro.
19 États.
Plus les membres du conseil des gouverneurs de la BCE, dont Philippe Lane, qui est l'économiste. Et donc le débat, c'est effectivement entre les gouverneurs de pays qui sont plutôt favorables à une politique monétaire restrictive, donc le gouverneur allemand, le gouverneur des Pays-Bas, l'Autrichien, qui a moins de poids que l'Allemand et les Pays-Bas. Le gouverneur des Pays-Bas a beaucoup de poids, parce qu'en général, c'est lui qui fait la balance entre les pays restrictifs et les pays plus souples que sont l'Espagne, l'Italie.
Voilà.
Et en plus, le gouverneur des Pays-Bas est aussi le président du Fonds de stabilité, du Forum de stabilité financière, donc c'est quelqu'un qui a pas mal de puissance.
Mais alors, il est très faucon, mais... L'immobilier en Hollande commence à souffrir. Et les fonds de pension hollandais aussi. Et on se souvient ce qui s'est passé pour les fonds de pension anglais il y a 3 mois. Donc, il n'est pas sûr. Et au fond, moi, j'écoute le gouverneur de la Banque de France. Je ne sais pas s'il l'a dit aussi clairement, mais j'ai l'impression qu'il a dit 0,50. Et la France...
Il a dit 0,50, je crois bien, François Leroy de Gallo, oui.
Se retrouve finalement dans une position intermédiaire dans cette situation. Et donc, je pense que le gouverneur, que François Villeroy de Garot l'emportera.
Frédéric Farah, par rapport à ce qu'on a dit, et puis après,
on se retrouve toujours avec le même problème, c'est-à-dire comment tenir ensemble plein de choses qui sont très difficiles à mettre ensemble. C'est-à-dire, il faut veiller à la stabilité financière, la stabilité économique, le taux de change, lutter contre l'inflation. Bon. Alors.
Avec une arrière-pensée croissance ou récession.
Oui, et croissance et récession. Parce que, vous savez. C'est l'occasion de se rappeler de vieilles choses de l'histoire de la pensée économique. Hein. Je ne veux pas y échapper. C'est ce qu'on appelait autrefois le carré magique de Cadore. Alors, c'était quoi le carré magique de Cadore ? C'est-à-dire qu'il y a 4 objectifs de politique économique. la croissance, le plein emploi, la stabilité des prix, l'équilibre extérieur. Les quatre ne peuvent pas aller ensemble, ils fonctionnent par couple et les deux rentrent en tension. Vous pouvez avoir la croissance et le plein emploi, mais si vous voulez la croissance plein emploi, vous devez accepter le risque d'un déséquilibre extérieur et le risque de plus d'inflation. Et selon les époques, on choisissait plutôt de faire balancer vers le couple croissance plein emploi ou plutôt inflation. Alors à un moment donné, ce truc c'est un peu compliqué quand on a eu de la stagflation. On s'est dit bah, comment on va faire quand on a les deux à la fois. Et alors aujourd'hui, on se retrouve avec le même problème, c'est-à-dire si on combat l'inflation, comment faire pour s'assurer que la croissance bah, elle demeure et en même temps il faut aussi, parce que c'est sa mission à la BCE, c'est aussi la stabilité financière. Donc il ne faut pas que les marchés rentrent en turbulence aussi, d'une certaine façon. Et la politique de taux de change, qui a toujours été le grand problème, le grand impensé de la BCE depuis le début. Et ça, si vous voulez, alors on ajoute enfin une petite sauce de pensée économique encore un peu. Il y avait autrefois, je veux dire, ça paraît lointain, et, ces règles de politique économique qui sont passées un peu dans l'oubli, qu'on appelait la règle de Mundell et la règle de Tinbergen. Alors que c'était quoi la règle de Mundell et Tinbergen? C'était comme ça qu'on faisait du policy mix. C'est-à-dire que, en fonction de l'objectif qu'on se donnait, par exemple la croissance plein emploi, on devait trouver l'instrument le plus adéquat. Par exemple, on disait soit le budget, soit la monnaie. Et ensuite, si on se donnait, par exemple, trois objectifs, il fallait autant d'instruments que les objectifs. Et c'était comme ça qu'on fabriquait la politique économique. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je trouve que ces vieilles choses d'autrefois sont pas idiotes à repenser pour se dire, mais comment, selon les objectifs que l'on veut, quels sont en Europe? Parce que l'Europe, vous savez, le grand truc de l'Europe depuis 99, c'est quel est le bon policy mix en Europe. C'est-à-dire comment on manie du budget et de la monnaie, surtout que le budget, il est décentralisé, il est au niveau des nations plus ou moins encadré, et le budget européen, il pèse pas. Et ce qui est fédéralisé, c'est la monnaie. Donc, un élément fédéral avec des éléments qui ne sont pas fédéraux. Donc, comment on met tout ça ensemble avec 19 pays, enfin, progressivement, il n'y en avait pas 19 au début, mais il y en a 19, et mettre tout ça ensemble. Donc, ces vieux trucs d'autrefois, que je connais bien, parce que j'aime bien ces histoires de la pensée économique, eh bien, c'est pas idiot d'y repenser. C'est-à-dire, aujourd'hui, quel est le bon instrument par rapport aux objectifs qu'on vise, et comment on articule, surtout qu'en plus, on a tenté de faire la mutualisation de dette en Europe avec ce plan. Et au niveau national, on a dit aux gens, bon, maintenant, les critères de Maastricht, on va les laisser de côté parce qu'on n'a pas le temps d'y penser. Mais on est en train d'y penser pour 2024. Donc, c'est pour ça que tout ça, je trouve ça absolument passionnant.
Vous devriez faire le carré Farah, là. Parce qu'en fait, oui, c'est passionnant de vous écouter sur ces histoires-là. Mais c'est vrai que là, on est dans une position.
Cube Farah, là.
C'est le cube Farah. Avant d'évoquer, ben justement, je vais revenir sur budget monnaie et budget monétaire. Voilà, la France est double A2 chez Moody's, double A chez S&P, double A chez Fitch. Si on se fait dégrader, là, Guillaume Dard.
Alors, comment est-ce qu'on est noté?
On est passé en perspective négative, hein, ouais. Vendredi.
Comment est-ce qu'un pays est noté? Un pays est noté par rapport à un ensemble de critères économiques et financiers, et notamment, le plus important de tous, c'est sa dette et sa capacité, non pas à rembourser la dette, parce qu'on ne la rembourse jamais, mais à assurer le service de sa dette, c'est-à-dire...
Solvabilité.
Solvabilité, liquidité. C'est d'accord. Assez...
Oui, c'est un peu les deux, c'est vrai.
Alors, quelle est la force de la France traditionnelle dans sa politique financière? C'est qu'elle est le pays le plus fort pour faire rentrer les impôts.
Ouais.
Bon. Ce qui est une qualité pour un pays, rassurant pour celui qui prête à la France. Quelle est sa faiblesse? C'est qu'elle a déjà le taux d'imposition le plus fort de la plupart des pays que vous avez évoqués. Donc, la marge, comme la dette a augmenté très fortement, rappelons quelques chiffres, elle est à 20% à la fin du septennat de Giscard d'Estaing. Elle doit monter vers 45% à la fin de celui deuxième de Mitterrand, premier, peut-être déjà à 60. On était à 60 à la crise de 2008. Je vous fais pas tout le film. On est à 115 aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que la dette, elle a quintuplé par rapport à la richesse produite chaque année. On a 5 fois plus de dette.
115% du PIB, je crois qu'il faut.
Voilà, du PIB, oui. de la richesse produite par la France. Donc, quand un couple, je sais pas, s'endette 5 fois plus, c'est que son revenu, c'est différent que quand il a 20% de dette par rapport à son revenu. Donc, on est trop endetté.
On a un gros taux d'effort en France, au niveau souverain.
Deux, comment elle va bouger? La dette, elle bouge pour trois raisons. Qu'est-ce qu'on dépense? Qu'est-ce qu'on a comme recette? Et comment vont varier les taux d'intérêt? Les taux d'intérêt sont plutôt en train de monter, on sait pas de combien. Donc ça, c'est pas bon.
On est en taux d'intérêt réel négatif.
Oui, taux d'intérêt réel négatif. Ouais, enfin, c'est des taux d'intérêt nominaux que vous
payez.
Oui, d'accord. Deuxième, et puis on ne sait pas quelle est la croissance réelle. Donc, deuxièmement, les dépenses n'ont pas l'air de partir pour diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a le fonctionnement français. Et deuxièmement, Il y a des dépenses très importantes qu'on a à faire en termes de transition climatique dans les années à venir. On a en plus vu que du point de vue militaire, il fallait quand même arriver à être capable de faire face à des situations aussi dangereuses que celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc structurellement, on a plus de dépenses. Conjoncturellement, on a plus de dépenses, on fait des boucliers. Et idéologiquement, pas du gouvernement, mais la France veut plus de dépenses. Bon, donc on a plus de dépenses. Est-ce qu'on peut monter les recettes?
L'inflation tire les recettes.
Oui, mais en nominal, mais en pourcentage, oui. vous allez pas, là vous avez raison, s'il y a énormément d'inflation et qu'on monte pas tellement les dépenses, mais enfin les dépenses, on va parler des indexations, les dépenses elles vont être indexées sur l'inflation. Donc notre marge, elle se réduit et donc la personne, l'agence de notation, elle dit bon ben endettée comme est la France, dépensière comme est la France, taxant aussi fortement. Il n'y a pas beaucoup de marge et donc marge. Le crédit bon, est moins bon.
Frédéric Farah, et puis par rapport à ce risque de dégradation, ce n'est pas une perspective là, qui serait abaissée, c'est une note dégradée. Hein. Ouais. Allez-y Frédéric Farah.
Je dirais deux choses. Alors, il y a toujours la question qui est passionnante et qui n'est pas facile à répondre. Est-ce que parce qu'il y a plus de dettes, il y a moins de croissance ou parce qu'il y a moins de croissance, il y a plus de dettes?
Les deux.
C'est une question et j'ai pas la prétention en 30 minutes ou en 2 minutes même d'y répondre, mais c'est une vraie question. Et c'était tout le débat, vous vous souvenez, passionnant, lorsque Kenneth Erogoff avait fabriqué, effectivement, avait dit si on dépasse un certain seuil pour les pays développés ou autres, et tout. Et Krugman avait répondu oui, non, mais alors la corrélation, il faut l'inverser, c'est pas parce qu'il y a plus de dettes qu'il y a moins de croissance, mais il avait dit parce qu'il y a moins de croissance, il y a plus de dettes. Alors après, on peut se battre.
Ouais, mais enfin, l'augmentation de dettes des 40 dernières années au niveau mondial, et on ne rentre pas pays par pays, a généré marginalement de moins en moins de croissance. C'est le cas de la Chine, il faut plus de dettes.
Oui, mais.
Il faut maintenant 2 ou 3 unités de dette pour faire une unité de croissance.
Il n'y a pas que la dette, il y a le facteur démographique.
Oui, mais il y a un truc qu'il faut
oublier. Mais la démographie mondiale, elle n'a pas diminué.
Non, mais
on parle du monde.
D'accord. Non, mais il y a juste un truc que je voudrais juste dire, et puis je reviens sur le risque de dégradation en tant que tel. Mais on a oublié quand même une époque, qui était celle des années 90 jusqu'à l'entrée dans l'euro, où les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés. Et ça a eu un effet, on était à du 5-6%, si ma mémoire n'est pas mauvaise. Dans les années 90, les taux d'intérêt ont été réels extrêmement élevés, parce que je rappelle que dans les années 90, l'inflation avait quasiment disparu, elle était pratiquement nulle, et en même temps, les taux d'intérêt étaient très élevés. Souvenez-vous que quand la Banque Centrale Allemande relève ses taux d'intérêt à cause de l'inflation qui était liée à la réunification allemande, nous avons suivi en 93 alors qu'on n'en avait pas besoin et on a eu une crise économique pas possible parce qu'il fallait se maintenir pour les critères de l'euro et on a même eu la spéculation sur le franc, souvenez-vous. Et je me souviens de Jean-Paul Fitoussi pour qui j'ai une admiration sans borne et à qui je dois tout, qui disait que la politique monétaire des années 90 était anormalement restrictive. Je m'en rappelle comme c'était hier, et que ça a eu des effets aussi sur la dette. C'est ça aussi. Et c'est avec l'entrée dans l'euro que les taux d'intérêt, au départ, avaient baissé, et ensuite ils repartent, comment dire, à la hausse entre 2001 et 2008, en tant que tel. Mais la dette a eu aussi pour facteur un tassement de la croissance et des taux d'intérêt qui ont été très élevés quand on a fait de la désinflation compétitive dans les années 80-90. Ne l'oublions pas, la désinflation compétitive avait eu pour objectif. Je rappelle quand même que l'inflation était autour de 14% en 80.
60%. Vous avez 100% raison, mais on n'avait que 60% de dette sur PIB au début des années 2000.
Allez-y Sylvie, puis on reviendra sur le risque de dégradation, l'actualité.
Je veux bien revenir sur ce risque de dégradation, parce que je trouve qu'on est quasiment uniquement, là, dans nos explications, sur des données financières. Et je pense que les agences regardent aussi le potentiel de croissance future qui est lié à notre capacité, notre réalité d'investissement. Et il faut bien regarder que depuis des années, l'Europe d'une manière générale et la France en particulier n'a pas fait toute la politique d'investissement qu'on a pu voir dans d'autres pays, les États-Unis en particulier. Donc c'est vrai que du point de vue de l'agence de rating qui nous a mis sous perspective négative, ce qui veut dire que soit... il y a deux solutions possibles. Soit elle abaisse le rating, soit elle redevient stable. Mais je veux dire, la marge de manœuvre pour revenir stable est très, très étroite. Il y a non seulement ces aspects financiers qui sont liés à la dette, le coût de la dette et la possibilité de la résorber, mais aussi nos potentiels de croissance future qui est lié à nos investissements. Et il faut bien reconnaître que les pays européens, et la France en particulier, on a été beaucoup plus axés sur donner des chèques à droite et à gauche, faire en sorte de compenser compenser les problématiques ou favoriser peut-être les exportations et pas tellement favoriser la demande intérieure et faire tous les investissements que d'autres pays en fait. Les États-Unis sont dans une situation nettement plus favorable et ont eu une croissance nettement plus élevée que l'Europe sur les 10 dernières années. Ils ont maintenu un potentiel d'investissement et ils ont continué à investir de manière très très significative et ça c'est important.
Je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment d'accord sur l'idée qu'effectivement l'Europe souffre de manière globale d'insuffisance d'investissement.
Et c'est grave parce qu'on souffre aujourd'hui. Alors, l'investissement, c'est la croissance de demain. Donc si on ne fait pas d'investissement et si on ne fait pas d'investissement depuis des années, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas de croissance.
Et pour aller dans le sens de Sylvie, une des raisons pour lesquelles on ne fait pas d'investissement, c'est parce qu'on n'a pas assez d'épargne en France. Et je le dis, on dit tout le temps... On dit tout le temps qu'on a 14% d'épargne.
Oui, c'est parce qu'on pense épargne privée.
Parce que les deux tiers de cette épargne vont où ? Dans l'immobilier. Dans les 14%, on calcule les remboursements de prêts immobiliers. La France a trop investi globalement dans l'immobilier. Et il y a une équation macroéconomique que Frédéric doit mieux savoir que moi. I égale S. Et donc, si le S, c'est-à-dire qu'avec le S, il faut qu'on rembourse la dette, il faut qu'on fasse le logement social. Et donc, sur l'investissement productif, il n'en reste pas beaucoup. Alors, on peut un peu détourner en faisant une mécanique de la banque public d'investissement, ça fait un bon job, mais ça tire sur la dette. On manque en France d'épargne financière fléchée vers l'investissement
productif. Je vais t'offrir une transition.
Oui, vers quoi
Vers les retraites.
Non, mais comment je ne m'apprêtais pas à parler des retraites.
Il faut favoriser les retraites par capitalisation, je pense. Bon. Vraiment. Et ça mobiliserait l'épargne.
On a une personne au niveau de l'exécutif n'a osé utiliser le terme. Non, et pourtant, déjà, les syndicats annoncent une première journée de mobilisation.
Non, mais attendez, si les gens, précipitent sur le plan épargne-retraite, il y a un besoin d'investir dans des fonds pour la retraite. Parce qu'en fait, le principal problème de la retraite, plus que l'âge, à mon avis, c'est qu'on a une perte de pouvoir d'achat considérable quand on passe à la retraite. Et donc, pourquoi ? Parce que notre système, par répartition, il ne marche pas, il ne marche plus. Et il faut je ne dis pas complètement passer à un système de capitalisation, mais introduire une dose de capitalisation qui permettrait de mobiliser l'épargne vers autre chose que de l'immobilier.
On en a beaucoup parlé, l'OCDE a plaidé cette solution dans une note rendue publique la semaine dernière. Il y a eu la semaine dernière sur ce plateau Frédéric Farah, on était avec Jésabelle Coupé-Soubéran, Jean-Pierre Petit, Jean-Marc Daniel. On a eu un échange, ça m'a rappelé le moment où on se demandait si la BCE devait annuler la dette Covid, avec le terme « annuler ». Et là, Jésabelle Coupé-Soubéran, qui connaissait le sujet, explique que désormais, il faudrait passer à une étape supérieure. On a fait du quantitative easing, elle a repris des obligations d'État sur le marché secondaire. Il faudrait peut-être que maintenant, elle le fasse carrément à l'émission primaire, qu'elle reprenne des obligations d'État avec... un mandat très clair sur le fait qu'elle va effectivement monétiser la dette des États, mais dans des objectifs d'investissement, et exclusivement des objectifs d'investissement. Ça m'est tombé des bras. Quand vous entendez ça, vous vous dites, c'est peut-être le coup d'après, ou alors, non mais attendez, parce que moi je leur ai dit, mais attendez, pourquoi on ne le fait pas depuis 25 ans ? C'est tellement génial de se dire que la BCE va financer tous les investissements dans les domaines clés. Et, bon, je ne sais pas si on peut accorder de la crédibilité à une idée pareille.
Alors, voilà ma réaction. En fait, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit pour plusieurs raisons. Après la guerre, on a fait ce qu'on appelait la répression financière, c'est-à-dire le fait qu'on avait cadenassé un peu les marchés financiers et les banques centrales apportaient leur concours aux besoins de l'État à travers ce que vous étiez en train de dire. Puis on est rentré dans les années 80 dans ce qu'on appelait la répression monétaire, c'est-à-dire qu'on a interdit la monétisation des déficits et on a changé d'époque. On est passé de la répression financière à la répression monétaire. Donc on est rentré dans cette époque et on a construit la BCE sur cette base. Aujourd'hui, finalement, on se rend compte que et c'est ça qui est intéressant, même si la Fed, en apparence, est indépendante, elle marche de concert avec le Congrès.
Donc, franchement, oui.
Oui, franchement. Donc, c'est un organe politique, largement. Bon. Et je rappelle que la BCE, la Fed, on avait modifié son statut en 47 pour ajouter la lutte, la croissance et le plein emploi comme ses objectifs. Ce qui n'était pas le cas avant. Et en 47, on avait modifié son statut.
Et Guillaume Dard avait dit un jour, on a fusionné la Fed et le Trésor. Il faut reconnaître que c'est à peu près ça dans les faits.
Et donc, si vous voulez, effectivement, à la fois faire la transition énergétique, maintenir un niveau de protection sociale qui est un peu la marque de l'Europe dans la mondialisation, c'est là où il y a le plus de dépenses sociales, c'est ici.
C'est un fait.
Bon, c'est la marque de l'Union européenne dans la mondialisation, c'est là où les dépenses sociales sont les plus élevées. Il n'y en a pas ailleurs dans le monde autant. Bon. Donc si vous voulez garder tout ça, et si en plus vous voulez remettre au goût du jour votre armée parce que elle n'en peut plus, enfin pas que l'armée française, l'armée allemande.
Les menaces sont là.
Les menaces sont là. Oui. Bon, si vous voulez rêver de plein emploi, bon, à un moment donné, il faut sortir l'artillerie monétaire, si je puis dire, et donc passer à autre chose. Donc éventuellement, ce serait une révolution de dingue. Ou, comme certains avaient dit...
On fera une semaine spéciale BFM Business le jour où on appuie sur un bouton pareil.
Voilà. Et c'est comme certains avaient dit, il faut faire aussi du quantitative easing for the people. Oui. Et pas simplement du quantitative
easing. Je me souviens, ça s'appelle de l'hélicoptère monnaie. Hein.
Voilà. Bon. Donc, la solution ne me paraît pas folle.
Elle ne me paraît pas folle.
Elle ne me paraît pas folle, elle me paraît tout à fait crédible par rapport à l'ampleur de ce qui est à financer.
Et j'ai envie de vous dire, Frédéric, pourquoi ça ne fait pas 15 ans qu'on le fait, si c'est tellement génial.
Mais je vais vous dire, j'ai une idée.
Pour terminer.
Que là, j'ai jeté effectivement un peu d'huile sur le feu.
Chacun est dans son rôle. Mais
voilà, Guillaume Dard, allez-y, on a 5 minutes 40.
La monnaie, c'est la stabilité d'une société. C'est-à-dire que quand on commence à faire des initiatives trop excentriques avec la monnaie, les sociétés s'effondrent. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre de 14. On pensait effectivement qu'il ne pourrait pas y avoir la guerre longtemps. C'est ce que Keynes avait dit. Il avait dit ben dans 6 mois, il n'y aura plus d'or, donc on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'on a fait? La Banque de France, elle ne s'appelait pas la Bundesbank, la Reichsbank de l'époque, la Banque d'Angleterre, ont financé les dépenses des États pour la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé après? Une inflation incroyablement forte. En France, on en parle moins parce qu'on va parler de l'Allemagne, l'inflation française était partie à 20-30%. En Angleterre, c'était significatif aussi. Et quant à l'Allemagne, elle a dérapé complètement. On a eu, dans la République de Weimar, l'hyperinflation. Et on connaît la suite, après déflation, après Adolf Hitler. Bon, premier exemple qu'on connaît bien, celui de l'Allemagne. Deuxième exemple, celui de la Chine. Les communistes, ils étaient là depuis 20 ans. Mao faisait la longue marche, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, finalement, les communistes ont gagné en 49? C'est que la monnaie s'est effondrée à peu près à partir de 47. Et donc, tout le système, c'est-à-dire que tous les gens qui ont de l'épargne, tout, etc., perdent tout. Et donc, vous êtes avec une société qui est prête à suivre ensuite n'importe qui, un dictateur dans le cas d'Hitler, Mao Tse-tung dans le cas de chinois. Et si vous prenez le Venezuela aujourd'hui, le Zimbabwe, l'Argentine, c'est comme ça. L'Argentine, c'est pas des dictateurs, l'Argentine, c'est démocratique, mais enfin, c'est pas un succès absolument faramineux. Donc, toute initiative trop prolongée vers l'excentricité, et on y est déjà, enfin, dans l'hétérodoxie, disons. Les banques centrales sont hétérodoxes, ça a des limites, et ces idées sont, du point de vue moral, tout à fait louables et admissibles, mais ça ne marche pas.
Bon, alors,
Sylvie Matera, c'est passionnant cette question, même si on est peut-être un petit peu martien.
Situation un peu, disons, intermédiaire entre ces deux positions. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord que ça soit moral, parce qu'il y a un élément quand même très important. D'un point de vue démocratique, les banquiers centraux ne sont pas élus. Et quand même, les choix de politique générale, politique...
Non, mais moral au sens des propositions dont
d'accord.
parlait...
Donc, il y a quand même un problème démocratique. On ne peut pas donner à un organe qui est nommé et pas élu le pouvoir de décider de toute la politique qui oriente l'économie d'un pays. Enfin, c'est pour ça que Isabelle Coupé-Soubiran
parlait d'un collège très universel qui serait au-dessus...
Avec des politiques... Société civile,
économiste.
Et ensuite, c'est pas le rôle du tout. Moi, je crois que c'est pas du tout le rôle de la Banque centrale de faire une politique budgétaire, finalement.
C'est ça.
Et quand on dit qu'aux États-Unis, la Fed marche de manière très proche avec le Trésor, ça veut simplement dire que la politique monétaire et la politique budgétaire vont dans le même sens. Et c'est une bonne chose, parce que quand on voit qu'elles sont complètement opposées, ce qu'on a vu pendant très peu de temps en Grande-Bretagne, il n'y a pas si longtemps, et ça marche pas. Donc, ça veut pas dire de s'aligner l'un sur l'autre, c'est-à-dire de faire en sorte que, de pas appuyer sur la pédale d'accélération et du frein en même temps.
C'est ce que disait Philippe Lane, d'ailleurs.
Et donc, je pense que, il faut, tout ce genre de discussion, ça a un intérêt intellectuel, mais en pratique, ça marche pas. Enfin, chacun a un rôle et doit remplir son rôle de manière la plus efficace possible, c'est-à-dire en liaison avec les autres autorités qui sont en charge de leur domaine et qui, l'un avec l'autre, arrive à faire en sorte qu'une économie marche normalement bien.
À chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Frédéric.
Voilà.
Oui.
On a 1 minute 50 avant de conclure.
Je vais être rapide. On voit bien en Europe, parce que le cas de la Grande-Bretagne, les États-Unis, c'est un État. Voilà. Là, on a fabriqué, parce que ça, on s'est fait en Europe. Les usines à gaz, c'est notre spécialité, mais absolue. Quoi. Les usines à gaz, on s'est fait faire mieux que n'importe qui. Donc là, on a fabriqué une usine à gaz de politique économique. C'est-à-dire, c'est la politique, enfin, en termes de statut, c'est la banque la plus indépendante sur le papier.
Bon, ouais.
C'est, voilà. Ensuite, on a dit, bon, les budgets, ça reste au niveau national, avec des encadrements qui n'ont jamais vraiment bien fonctionné, puisque le pacte de stabilité n'a apporté ni la stabilité ni la croissance. Bon, voilà.
C'est vrai, objectivement, c'est vrai.
C'est vrai, donc ça n'a apporté ni l'un ni l'autre, c'est juste un nom. Bon, ok. Un budget européen qui a toujours été un budget de nains, autour 1%. De 1%.
Puis, ouais.
Voilà. Et au milieu de tout ça, on a dit, bon, ben, bonne chance, hein, faites une politique économique pour que ça marche pour tout le monde. Ben, évidemment, ça ne peut pas marcher. Parce que le plan Biden, là, tous les plans de dingue qu'il nous a fait, 3000 milliards, puis 400 milliards par ici, dans tous les sens, s'il n'avait pas la monnaie à disposition pour lui, avec la Fed derrière, ben, ils n'auraient pas dit, bon, les Américains, je vais vous faire un gros plan à 3 milliards, puis ensuite un plan à 400 milliards, ou un plan, j'en fais tous les 4 matins, même si parfois les Républicains, ils ne sont pas d'accord, ou même les démocrates aussi, en tant que tels. En fait, nous, ce qui est génial en Europe, c'est qu'on a réussi à fabriquer un truc qui, à la fin, fabrique plus de l'impuissance que de la puissance. Et c'est ça qui est génial.
C'est la question qu'on posait dans cette émission. On s'est demandé si la Banque Centrale était impuissante ou incompétente.
Mais c'est que le problème, c'est que dans l'histoire, en fait, il y a un fantôme qui est revenu et qu'on ne pensait pas revoir et qui est en train de compliquer l'usine à gaz, c'est l'inflation. C'était le fantôme qui avait disparu.
Ah, et le revoilà. J'avais dit exactement la même chose, le retour du fantôme de l'économie.
Mais les Allemands ne veulent pas voir ce fantôme et n'accepteront jamais d'initiative. Ils veulent garder leur triple A. L'euro, il est basé sur l'Allemagne et la Hollande.
Vous avez vu d'ailleurs que
nos propositions, elles pèsent pas lourd compte tenu de notre situation économique.
L'accord de Karlsruhe a rappelé là il y a quelques heures que on avait fait des eurobonds de manière exceptionnelle et qu'il n'était pas question de mettre ça au goût du jour de manière permanente.
On est d'accord.
Bon, on a fini.
Ses intérêts. Elle n'a pas
Mathieu m'écrit à propos du collège qui serait au-dessus de la BCE. Est-ce que c'est un collège ou un comité central du Parti communiste? Bon, Sylvie Matera, merci.
Merci.
Guillaume Dard, Frédéric Farah, rendez-vous demain 9h.
Merci.